Sophie. Pourquoi cette emprise? Parce que Sophie, c'était une jeune femme très faible, trop timide, peut-être trop honnête et d'ailleurs très obéissante.
Alors c'est dur de savoir qui était Sophie, de la connaître bien. Il y a eu effectivement des amis à elle qui ont parlé, des gens, des commerçants qui ont parlé et qui m'ont parlé. C'était quelqu'un de très timide. Ce qui a toujours été important dans ce procès, c'est de rappeler que elle est peut-être la victime, mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas sa personnalité qui est en cause. C'est la personnalité des deux accusés, des deux coupables. C'est eux qui l'ont rendue telle qu'elle a été. Qu'elle ait été faible, timide ou quoi que ce soit, finalement, ça en entre pas en ligne de compte. Elle a été manipulée par deux personnes qui ont fini par la tuer.
Un petit mot, maître Alexandre Demeyer, c'est une histoire d'un cauchemar, hein?
Oui, tout à fait, c'est l'histoire d'un cauchemar à la fois pour les parents et puis pour Sophie Lyonnais qui jamais n'aurait pu imaginer tout ça en prenant l'Eurostar pour aller à Londres.
Merci infiniment maître Alexandre Demeyer Honoré et Marie Billon en direct de Londres pour avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Théa de Turckheim, réalisation en direct Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL
et l'heure du crime.
Merci d'avoir écouté l'heure du crime. Et ne bougez pas.
RTL vous propose maintenant une rediffusion des grosses têtes présentées par Laurent Ruquier.
Bonne nuit et bonne écoute.
RTL, il est 3h. 24 heures d'info avec Aude Vernuccio.
Ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire du petit Grégory, Jacqueline Jacob, la grand-tante du garçon tué en 84 dans les Vosges, va être convoquée pour être entendue en vue d'une possible mise en examen. Convocation alors qu'un graphologue a reconnu cette femme comme l'auteur d'une lettre de menace envoyée aux parents de la victime. Le petit Grégory a été retrouvé sur les rives de la Vologne en 84 sans jamais qu'on puisse identifier le tueur. Peut-être pas les mots de Donald Trump qui n'a toujours pas tranché sur une éventuelle implication des États-Unis en Iran au sixième jour d'escalade militaire entre Téhéran et Tel Aviv. Allié d'Israël, le président américain dit perdre patience. Il demande la reddition sans condition de Téhéran. L'Iran ne se rendra jamais, répond le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei qui promet des dommages considérables si Washington s'implique dans cette guerre. Emmanuel Macron demande au Quai d'Orsay de faciliter le départ des Français qui veulent quitter l'Iran ou Israël. Le chef de l'État exhorte aussi Tel Aviv à mettre fin urgemment aux frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Déclaration de l'Élysée à l'issue d'un conseil de défense. L'ONU convoque vendredi une réunion du conseil de sécurité après de nouvelles frappes massives des deux parties. Dans la soirée, le siège de la police iranienne a été visé à Téhéran, faisant plusieurs blessés. La CFDT promet d'être au rendez-vous lundi pour l'ultime réunion du conclave sur les retraites. Le syndicat veut concrétiser des accords sur la carrière des femmes, sur la pénibilité de l'emploi. À l'inverse, Patrick Martin, le patron du MEDEF, se dit très réservé sur la présence de l'organisation patronale. Alors que la santé mentale est désignée grande cause nationale par le gouvernement en 2025, ces chiffres affolants, les hospitalisations d'adolescentes et de jeunes femmes pour tentatives de suicide ou automutilation ont augmenté massivement l'an dernier, plus 22% chez les très jeunes filles entre 10 et 14 ans, selon l'adresse le service statistique des ministères sociaux. Et puis cet énorme espoir pour la recherche contre le sida, les États-Unis approuvent un nouveau traitement très prometteur, préventif contre le VIH, le lenacapavir, un jour historique selon Daniel O'Day, patron de la biotech américaine Gilead, dans un communiqué. Et puis en basket, les Françaises se sont imposées face à la Turquie. Victoire 71-69 à l'Euro de basket. La météo, toujours beaucoup de soleil sur tout le pays, mais un risque d'averse en fin de journée sur le relief corse et sur les Alpes du Sud, voire un coup de tonnerre possible. Les températures comptaient de 11 à 18 degrés en moyenne le matin, jusqu'à 23 dans le sud. L'après-midi, on va souvent dépasser les 30 degrés. 30 à Nancy, 31 degrés à Ajaccio, 32 degrés à Paris, 33 à Lyon, jusqu'à 36 degrés à Cognac pour la maximale. Et puis les courses à Longchamp, attention, le 8 et non partant, les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 10, le 11, le 7, le 4, le 3, le 14. Et l'outsider de RTL, c'est le 11, roulette.
RTL, 24 heures d'info.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui Le retour d'une grosse tête qui a gardé l'accent de Marseille et les boules qui vont avec. Ziz du panier.
Oui.
Le retour aussi, il vient nous voir trop rarement. Le retour d'une grosse tête qui a fait plus pour le chat en France qu'en Iran. Philippe Gueluc. Grosse tête qui en ce 18 juin, et oui on est 18 juin, nous rappelle comment on surnommait les Allemands pendant la guerre grâce à sa chevelure, Valérie Mérès. Une grosse tête reconnaissable lui à son écharpe rouge et à ses bonnes réponses, Christophe Barbier. Une grosse tête qui aujourd'hui dans Télérama a 4 T pour son spectacle à l'atelier, Constance. Ouais. Et enfin, une grosse tête qui sait que le fauteuil 11A peut vous sauver la vie à bord d'un avion, Jean-Phi Janssen.
Bonjour.
D'abord, est-ce que c'est vrai cette histoire, Jean-Phi ? Parce que j'ai lu qu'il y avait eu 2 miraculés. Il n'y a pas que le monsieur indien là qui
oui,
a été sauvé.
Compris, oui, il y en a 2.
Il y a une autre dame qui, elle aussi, était sur le siège 11A et qui a survécu il y a quelques années, elle aussi, à un crash d'avion.
Tu vas voir que dans toutes les compagnies, ils vont mettre tous les sièges 11A. Mais non, mais c'est un pur
hasard.
Vous
le saviez ou pas ?
Non, mais c'est pas une...
Parce que vous me l'aviez jamais dit, salopard.
Ah bah non, surtout pas. Mais non, mais c'est une...
Parce que vous êtes sur un siège éjectable, méfiez-vous.
Non, non, mais ça n'a aucun rapport, c'est une pure coïncidence. Voilà,
vous croyez vraiment ?
Bah oui, ah, il n'y a pas juste...
Mais là, s'ils étaient 2 sur le même siège, c'est bizarre, non ?
Pas en même temps.
Ah, j'ai pas compris.
Madame Dupanier, pas en même temps. Vous aimez prendre l'avion, vous, Madame Dupanier ?
Ah, j'adore ça.
Puisque c'est vraiment... votre grand retour. Marseille-Paris, vous le faites en avion ?
Ah non, je le fais en train. Et puis maintenant, avec la concurrence, les Italiens, qu'est-ce qu'ils sont bien, dis donc.
Ah, ah oui ?
Oh, le confort, la classe et tout, on a de la place. Pour les grosses, c'est magique. Hein.
Ah bah Valérie, voyez, vous allez pouvoir...
Ah bah je l'attendais.
Vous allez pouvoir retourner dans le sud.
Non mais c'est un des problèmes. C'est un des problèmes des gens en surpoids et sur certaines compagnies, il y a des personnes qui réservent, et Jean-Philippe va le confirmer, 2 sièges pour une personne tellement ils sont gros.
En fait,
mais il faut choisir les compagnies où l'accoudoir peut être escamoté.
Oui, ça peut faire très mal sinon.
Moi l'autre jour, il cherchait mon mari à tout prix, le contrôleur. Et alors il me dit comme ça, et monsieur est où ? J'ai dit dedans.
C'est la première fois, monsieur Barbier, que vous rencontrez Ziz du panier.
Ah oui, physiquement, oui, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle, notamment avec mes amis Didier Constant, Théa Sogno, c'est-à-dire toute la bande du Théâtre du Sud.
Oui, en Théa Sogno, qui fait une programmation à Avignon extraordinaire, à Avignon, la condition des soies.
Oui, à la condition des soies, formidable.
Donc, et vous, Constance, vous connaissiez Ziz du panier?
Alors, on s'est croisés il y a 20 ans.
C'est
ouais.
Pas vrai.
Ouais. Au Théâtre du Montmartre Galabru.
Oui.
Ouais, on a commencé à peu près dans les mêmes théâtres, hein, c'est vrai.
Ça. Au Montmartre Galabru. C'était au Montmartre Galabru.
Ouais.
Et c'était mon premier spectacle, et c'était extraordinaire. Et là, j'ai hâte de venir à l'atelier.
Elle a 4 T, à 4 T,
oh
la Télérama.
Ouais.
Moi, je serais son producteur, je kifferais.
Ah bah ouais.
Non, mais monsieur Janssen, comment on fait pour sauver ? Parce que...
Pour avoir 4 T.
Faut demander 4 fois au steward. Non mais sérieusement, pour revenir au crash aérien,
oui, bien sûr, oui.
Comment il a fait le monsieur là pour se sauver du 11A?
Mais c'est marrant, vous me prenez pour un expert aéronautique ou quoi? Eh, moi j'étais au test de l'air, pas pilote. Non mais c'est un coup de chance.
Non, faut être assis à l'arrière.
Pendant longtemps, on a dit ça. Alors, oui. Statistiquement, les gens qui sont assis à l'arrière ont plus de chances de survie.
Oui.
Sauf que, dernièrement, on a vu qu'il y avait un avion qui avait décroché et il s'est cassé la gueule par le cul. Donc, ça s'arrête.
Là, donc, non, ça arrive souvent.
C'est
ça.
Mieux d'être sur une aile. Oui. Quand ça explose.
Vaut mieux rester sur la terrasse, fumer une clope,
voilà,
et attendre que ça passe. Il n'y a pas de règle, vous savez, c'est quand ça vient. Moi, nous, on était préparés, un crash, c'est un crash. Hein. Alors, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, bon, ça
fait des
et, quand, et quand c'est pas écrit, ben, tu meurs pas.
Voilà.
Ouais. Voilà. Vu comme ça, c'est pas pour. Mais vous connaissez, Jean-Phi, tu connais l'histoire du pilote qui effectue son dernier vol dans un Boeing. Il annonce aux gens qu'il voudrait tenter un truc pour son dernier vol, c'est de faire un looping. Et il demande à tout le monde de bien s'attacher, alors tout le monde s'attache, et il se lance, et il fait un immense looping qu'il réussit. Et tout le monde applaudit, ovation pour le pilote. sauf le mec qui était aux toilettes.
Bah, c'est arrivé à votre maman, ça, non?
Elle était aux toilettes, et puis comment on dort? Si comment on dort prend la peine de faire l'annonce pour dire que c'est des turbulences sévères, c'est que c'est sévère. Donc, c'est-à-dire que même nous, on file et on court s'attacher.
Bien sûr.
Et je dis, oh, ma mère aux toilettes. Et j'ai couru, effectivement, elle avait été bien secouée, elle avait un pied dans la cuvette et la jupe sur la tête.
Et elle a fait quoi, alors?
Ben, en plus, elle était persuadée que c'était elle qui avait déclenché ça, parce que c'était au moment où elle appuyait sur la chasse d'eau. Alors, elle me disait, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai appuyé sur le bouton, ça a tout fait bouger l'avion.
Allez, je crois qu'il est temps de passer à la première citation du jour pour Mme Lemoine, Bérénice Lemoine, qui habite dans l'Aube, qui a dit « Un prêtre, c'est un homme que tout le monde appelle mon père, sauf ses propres enfants qui sont obligés de l'appeler mon oncle.
Oh » Enfin, c'est Jean-Yann.
C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Valérie Mérès. Pour Maxime Fauquet, qui habite Quimper, qui a dit « Le problème avec les femmes, c'est qu'elles ne relèvent jamais la lunette des toilettes. » C'est quelqu'un qui a travaillé à la radio il y a quelques années, quelques décennies de ça, que dis-je, 30 ou 40 ans, qui n'est plus tout jeune, mais qui est toujours de ce monde, en tout cas, qu'on cite de temps en temps. Il était à la radio en même temps que Pierre Desproges à cette époque.
Louis Régaud.
Louis Régaud, bonne réponse de Philippe Gueuleux. On va monter un peu le niveau d'un cran pour Madame Noche, Catherine Noche, qui habite Poitiers, qui a dit, écoutez bien ces quelques vers, voilà de la poésie, monsieur Barbier, comme vous l'aimez, heureux qui peut dormir sans peur et sans remords, dans le lit paternel, massif et vénérable, où tous les siens sont nés, aussi bien qu'ils sont morts.
On dirait du Victor Hugo. Victor
Ce
Hugo.
N'est pas du Victor Hugo. On dirait du Victor Hugo parce que je l'ai bien interprété.
Ouais, vous l'avez oui.
C'est du 19e siècle quand même.
Alors, c'est du 20e.
20e.
Ah oui, alors,
à oui, soyez précis.
À poil, j'allais dire.
D'accord. Pardon.
À cheval.
Enfin, Yves Saint-Martin.
Non. Non, à cheval, mais pas vraiment à cheval, parce qu'en fait, il est mort. Vous avez raison, il est plus du 19e que du 20e. Il est mort en 1905. Donc, l'essentiel de sa vie, effectivement, s'est effectué. Il est mort assez jeune, d'ailleurs, à 62 ans.
Mais c'est quand pas même, Jules Renard.
Il a plus vécu au 19e qu'au 20e. Je vous l'accorde, monsieur Barbier.
C'est un Français, bien sûr, c'est un Alexandrin.
Alors,
ah, c'est peut-être un.
Ah, il n'est peut-être pas tout alors, à fait français.
Alors, c'est quelqu'un qui est naturalisé français. D'ailleurs, dans les années 1890, il s'est fait naturaliser français.
Il venait d'Amérique du Sud ?
Oui.
Jules Laforgue ?
Non.
Ah oui, j'allais dire Marthe Villalonga, mais non, ça.
Est-ce que ça serait pas Rodrigo González ?
Non plus. Non. Académicien français, attention, hein, mais né sujet espagnol, naturalisé français en 1893. C'est un grand poète. Ah, vous avez trouvé quelque chose, vous ?
Non, j'aime bien faire ça, ça fait que je réplique. Ouais.
Je me disais aussi.
Et il avait écrit des pièces de théâtre aussi ?
N'exagérons rien. Non.
Elle pense à Garcia Lorca, mais c'est pas lui, voilà. Il est plus tardif, Garcia Lorca.
Non.
Miguel Alonso.
Mais non. C'est un nom composé comme ça, c'est nanana.
C'est un pays.
Ah oui. Non, je fais comme Jean-Philippe.
Ah, t'as vu, ça marche ?
Non. Non,
ah
mais... Il est l'auteur d'un seul recueil qui s'appelle Les Trophées, publié en 1893.
Ah oui, José Maria de Heredia.
Bonne réponse ! Excellente réponse de Christophe Barbier.
Les Grosses Têtes de Nuit.
3h-4h30 sur RTL.
Une question pour Isabelle Riff qui habite Gennevilliers. On peut lire dans la presse aujourd'hui que les séparatistes défient le gouvernement. Mais les séparatistes de quelle région ?
De l'Alberta au Canada.
Mais il sait tout. Oh. Bonne réponse de Christophe Barbier.
Il faut dire que... Il y a eu un G7 au Canada, Kananaskis, et donc ils en ont profité, puisque c'est la région pétrolifère du Canada, ils ont toutes les richesses, et ils considèrent que le gouvernement central d'Ottawa les méprise, prend l'argent, prend le pétrole et ne leur donne rien.
C'est la province la plus riche du Canada, pétrole, gaz, l'Alberta, c'est pas une copine de cabaret, si c'est du panier.
Non, l'Alberta. Je me demandais, j'ai connu celle-là.
C'est vrai que dans les cabarets, souvent, vous avez des noms bizarres.
Je sais pas, moi, pourquoi vous me dites ça, moi?
Ziz du panier. Ziz. J'imagine que sur votre passeport, c'est pas écrit Ziz du panier, vous voyez.
Mais le panier, c'est un quartier de Marseille. Marseille.
Ça, je sais.
Ah, vous savez.
Mais son vrai nom, c'est Zizi du Panier.
Donc, peut-être que vous avez connu une Alberta dans
vos... Non, j'ai pas connu d'Alberta. Et je sais pourtant que chez Michou, il y a eu du passage. Il y avait des noms bizarres. Il y avait Zaza TGV. Il y avait...
Zaza TGV. Ouais.
À cette époque, dans la nuit, dans les cabarets, il y avait des noms comme ça. Lady Lune.
Lady Lune.
Ouais. Et puis, Hortensia, qui nous a quittés il y a quelques jours.
C'est pas vrai.
Ouais. Oh. La star de chez Michou, Brigitte Bardot.
Ah oui.
Ouais.
Hortensia, elle faisait Brigitte Bardot.
Oui, c'était la plus grosse des fleurs. Il avait surnommé comme ça Michou parce qu'il faisait 200 kilos.
J'ai un souvenir d'une émission dans laquelle Jean-Pierre Foucault recevait Alain Delon.
Ouais.
Et il lui avait fait venir des témoins de sa vie, dont Rita Cadillac,
ah oui,
qui était une stripteaseuse des oui, années 60, qui était une bombe atomique, qui était d'une beauté. Sauf qu'il lui avait demandé de venir sur le plateau 45 ans plus tard.
Ah oui.
Et alors, chanter toujours. La tête de Delon a valu de l'or parce que...
C'était une Cadillac plus cotée à l'Argus.
Surtout qu'elle chantait « Comptez pas sur moi pour me montrer toute nue. Mon papa veut pas, maman me l'a défendue. » Mais à l'époque, quand elle était jeune, ça devait être joli, oui.
Ah bah oui.
Ah, il est quand même fort, Alain Delon, d'avoir survécu à tout ça.
Oh, ben, il a eu Lulu de chez Michou aussi.
On s'est éloigné du Canada, hein, quand même, et d'Alberta, mais c'est vrai que... Bon, en même temps, c'est pas le problème géopolitique le plus important du moment.
Ah, on a d'autres chats à fouetter, même si c'est aussi des chats où il y a plein de pétrole.
Oh là là.
Oh là là, oh là.
Et vous, Jean-Phi, alors?
Quoi, moi, vous parlez géopolitique? Ah oui. Ça va pas bien nulle part.
J'étais plutôt revenu dans les noms de copines de cabaret.
Ah oui. Mais non, mais il y a la Big Bertha.
Ça, c'est la nouvelle génération, les drag race.
Les drag race, oui, mais ouais, finalement, drag, c'est un nom qu'on a collé à quelque chose qui existait déjà.
C'était ils n'ont rien inventé.
C'est des transformistes, que ça s'appelle.
C'est ça.
Pardon.
C'est des transformistes.
Ah, des gens qui jouent au rugby. Vous êtes déjà déguisé en femme, vous?
Oh, bah, tout le temps, il fait ça. Oui. Il a le même perruquier que Madame Macron.
Vous n'avez jamais vu Monsieur Gueluc dans un cabaret bruxellois? Ah, chez maman, Ziza Dupanier.
Ah, mais j'en ai entendu parler, parce que moi, je suis fan, vous savez.
Ah oui?
Ah ben oui, parce que le chat m'a toujours titillé.
Titillé et grominé. Louis, j'ai mis les pieds une seule fois. Votre invitation.
Non, pas du tout. On va à Bruxelles faire l'émission. On était encore avec Europa à l'époque.
Ouais.
Hein, c'était pas encore RTL, je crois. Et on va faire l'émission à Bruxelles. Puis après, on se décide tous à sortir. Puis il y a quelqu'un dans la bande, ça devait être Stevie. À l'époque, il n'y avait pas encore Jean-Phi.
Il en faut toujours un, Laurent.
Oui, c'est vous...
Alors, on y va avec Stevie en éclaireuse, on
oui,
va
forcément,
dire.
Oui.
Et il nous dit, je vous emmène chez maman. Alors, on va chez maman. Alors, Philippe Gueluc dit, tu connais chez maman, Philippe Gueluc? Non, je ne connais pas. Et là, on arrive, et devant chez maman, il y a une physionomiste qui ressemblait un peu à Ziz Dupanier.
C'est une grosse dame, vous voulez dire.
Voilà. Et la physionomiste, elle voit arriver Gueluc, qui fait, ah, et ben la revoilà, la Gueluc. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Ah mais oui, c'est vrai. Bien sûr, mais je...
Voilà comment je fais griller.
Je vous jure que c'est la première fois que j'allais là. Mais à mon avis, elle m'avait vu dans d'autres circonstances.
Oui.
C'est ça, oui.
Parce que quand même, t'as rougi quand Laurent a dit
ouais,
allez chez maman.
En fait, le chat est une chatte.
Et vous, monsieur Barbier, vous êtes déjà transformé, costumé, enfin...
Ah oui, moi j'ai joué la veuve de Corneille et j'ai joué la nourrice.
C'est pas vrai.
Et oui, j'étais déguisé en... J'étais au moins aussi opulent que notre ami Ziz. Et j'ai adoré ça.
C'était pour un rôle ou pour une fête?
C'était pour un rôle.
Ah oui.
C'était pour un rôle, ouais.
Vous parlez comme ça, j'étais la veuve, j'étais la nourrice de la veuve. Ça devait être bien.
Ah, on y croit, hein.
Ouais, j'étais jeune à l'époque.
Juste pour me faire plaisir, vous pouvez pas le refaire ce soir sur BFM. Avant votre départ, vous voyez.
Il serait anticipé, je crois, si j'ose ça.
Bon, quitte les cabarets, on a parlé géopolitique. À notre façon, on va dire. Oui. Mais enfin, l'Alberta n'est pas non plus la région la plus, on va dire, la plus intéressante. Les Canadiens s'en soucient, hein, j'imagine, mais...
Ah, bien sûr, ils ont tous les schismes bitumineux, là.
Bah oui, les schismes bitumineux. Là,
c'est bitumineux.
Et vous l'écrivez comment, bitumineux?
Ça brûle beaucoup, là-bas, en ce moment, aussi. Faudrait pas que les flammes, elles arrivent sur le pétrole, il serait réglé, le problème. Hein.
Lui, il a compris les chibres bitumineux. Les schismes.
Ah, les schistes. Oh, schistes. Schistes. Oh, bah, j'ai c'est le sous-sol, quoi. C'est des sables. Et si on les presse, ils coulent du pétrole.
Oh, là, 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 là. Déjà allé dans le sous-sol, j'en
suis. Oui, et il n'y a pas que du pétrole qui a coulé. Hein.
Mais Ziz du panier, j'ai un petit dossier d'information. J'ai fait avec ma chérie une thalassothérapie à Biarritz.
Ah ouais, oui.
Et nous avons
avec eu, votre femme bon, ou avec votre chérie?
Avec ma... attendez, que je me souvienne, c'est la même. Et donc, à un moment, je bavardais avec une masseuse qui me massait et qui m'a dit, on a déjà eu des personnes célèbres et notamment ma voisine de droite, Ziz du panier.
Oui, j'ai fait une thalassothérapie il n'y a pas longtemps. Voilà.
Et donc, j'ai demandé certains détails sur des questions que nous nous posons tous.
Oui,
évidemment.
Bah oui.
Elle m'a répondu par l'affirmative.
Eh ben,
je ne peux rien révéler, c'est le secret médical.
Qu'est-ce que vous voulez incinérer, monsieur?
Rien du tout, contrairement à certaines compagnies d'aviation indiennes.
De toute façon, il y a un truc que vous ne nous avez pas dit, parce que c'est vrai que vos copines, là, les noms dont vous nous avez donné la primeur tout à l'heure, enfin la primeur 40 ans après, mais comment elle s'appelle, TGV machin,
oui, Zaza TGV, Lady Lune, voilà, tout ça,
voilà, qui faisait, donc vous m'avez dit, il y en a une qui faisait
Brigitte Bardot, chez Michaud et qui nous a quittés.
L'autre, elle faisait qui alors?
Sylvie Vartan.
Sylvie Vartan. Mais vous alors, vous faites qui, vous?
Moi, chez Michou,
oui.
Ah, je faisais Régine, Muriel Robin, que des rigolotes. Et puis après, j'ai été jeune et belle aussi, à un moment, un peu tardivement, je dois reconnaître, parce que j'ai pris conscience de ça très tard, dans les années 2000, et j'ai fait Hélène Ségara, j'ai fait Lara
c'est,
Fabian.
C'est pas vrai.
Oui, oui, cherchez sur Internet, vous verrez.
Avant qu'elle fasse Régine, alors.
Mais maintenant, tu fais plus Jane Birkin, par exemple.
Non, maintenant, je fais que moi, je me concentre sur moi-même. Ça y est, je me suis accepté, malgré que j'ai de l'embonpoint.
Mais toujours, toujours en playback ou vous chantez vraiment?
Ah non, moi maintenant, je me suis rendu compte aussi que j'avais un organe extrêmement développé.
C'est ce que m'a dit la masseuse.
Alors, juste pour Constance qui vous a pas vu depuis très longtemps, monsieur Barbier qui vous découvre et monsieur Gueluc qui se régale, est-ce qu'on pourrait juste avoir le refrain d'un de vos tubes du moment?
Oui, la nouvelle chanson que j'ai enregistrée, que j'ai chantée chez votre ami avec qui vous avez débuté, Michel Drucker.
C'est pas vrai.
Et ne parlez pas de tubes, s'il vous plaît.
Ça s'appelle Le soleil sèche les figues. Ah, ça, c'est une chanson de chez moi, hein, attention.
Le soleil sèche les figues.
Oui.
Et ça fait comment?
Midi juste à la pendule, le soleil tombe de haut, et par cette canicule qui exposerait sa peau, en dehors des parisiennes qui se déguisent en indiens, mais c'est pour ça qu'elles viennent, mes conseils ne servent à rien. Le soleil sèche les figues, attention à vos museaux. Le soleil sèche les figues, ne sortez pas sans chapeau.
Quand je pense que pendant ce temps-là, à l'extérieur, on parle d'une éventuelle guerre nucléaire.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff.
Pour monsieur Toutain, Jérémy Toutain, une question et d'actualité et culturelle, puisque c'est une question qui concerne la sortie du film aujourd'hui, Le Retour d'Ulysse, un film d'Uberto Pasolini, réalisateur qui a réuni un couple culte, en quelque sorte, puisqu'il s'agit de Juliette Binoche et de Ralph, alors je sais pas, certains disent Fiennes.
Non, Ralph Fiennes.
Vous vous dites Fiennes, voilà. Dites-le comme vous voulez, mais ça fait déjà 3 fois qu'ils tournent ensemble. C'est le 3e film où ce couple est réuni. Et vous devinez déjà ma question.
Quels sont les 2 autres?
Quels sont les 2 films?
Le patient anglais et Les Hauts de Hurlevent.
Oh là là là!
C'est clair.
Tu sais qui? Bah alors, mais ici. Tu sais, c'est pas la réponse qui est importante, c'est le chemin jusqu'à la réponse. Et toi, tu nous coupes l'air sous pied, on peut plus déconner.
Mais tu vois, c'est comme en avion, le chemin le plus court, c'est le meilleur.
Ben non, mais c'est vrai qu'il a raison, effectivement. Le plus dur à trouver, c'était Léo de Hurlevent.
Hier, je suis allée au cinéma, j'ai vu Indomptable et c'était très bien.
Ah oui, avec
Thomas Gijol.
Oui, absolument.
Et c'était très très bien.
Oui, c'est pour. Du coup, je participe en tant que je vais au cinéma, j'ai un peu de culture, parce que j'ai pas le temps, en fait, de prouver que je suis pas stupide. Donc voilà, j'ai vu un film très bien.
Te justifie pas.
Laurent, est-ce que vous m'accordez 3 secondes? Je voudrais féliciter Christophe pour sa réponse. Je voudrais encore féliciter Constance pour ses 4 T dans Télérama, ainsi que vous, Laurent, pour T18. Oh. Et j'aimerais demander à notre assistante un T thé vert.
Attention, j'ai d'autres questions bien plus difficiles, monsieur Barbier, concernant le retour d'Ulysse. Et là, on va aller carrément, puisque c'est évidemment tiré de l'Odyssée d'Homère. Hein, et Ulysse est joué par Ralph Fiennes, ou Fiennes, comme dirait monsieur Gueluc. Et ma question est toute simple. Où revient Ulysse après toutes ces années ?
En Ithaque.
Bah, Ithaque, oui.
Ithaque, excellente réponse. Au bout de 20 ans, il rentre à Ithaque, déguisé en mendiant, hein, et il va tuer tous les prétendants de sa femme Pénélope, un peu comme François Fillon. Et...
mais elle bossait vraiment, Pénélope. Elle faisait une tapisserie.
Elle, mais elle la femme de François aussi faisait une tapisserie.
Ah bah non, bah, elle faisait exactement comme Madame Fillon, tapisserie. Parce qu'elle faisait semblant de faire un truc qu'elle faisait pas.
Mais qu'elle défaisait la nuit, alors que l'autre foutait rien.
Du tout. Et Indomptable, ça se passe au Cameroun.
Et c'est son chien qu'il a reconnu.
Argos.
Ouais. Ah bah, c'était ma question suivante.
Ah bah oui.
Comment s'appelle le chien qui reconnaît Ulysse?
Argos.
Argos, bonne réponse.
Mais Laurent, le retour de Ulysse et tout ça, réinterprété pour le film, c'est le Homère de maintenant. Alors que l'histoire de l'époque,
c'est le Homère d'aujourd'hui. Vaut-il le Homère d'alors? Ah, je vous ai pas laissé faire. Elle est de Pierre Dac, celle-ci.
C'est vrai?
Ah oui, c'est une phrase de Pierre Dac. Le Homère d'aujourd'hui vaut-il le Homère d'alors?
Et le homard?
Merci Valérie. Le chien, en tout cas d'Ulysse, s'appelle bien Argos. C'est lui qui va reconnaître son maître. Et alors le fils d'Ulysse?
Télémaque.
Télémaque, bonne réponse. Combien de thé dans Télémaque?
Oh, alors, il y en a un.
Vous connaissiez l'histoire d'Ulysse, monsieur Janssen?
Oui, le petit robot.
Non.
Non, ça c'est Nono, ça c'est Nono.
Non, mais c'est
quand même... y a Balzac qui a écrit la suite.
Oui.
L'histoire d'Ulysse dans la vallée. Après.
Dans la vallée.
Alors ça, Pierre Dac l'avait pas trouvé. Hein.
Et là, c'est plus que le centre commercial, les Ulysse.
Voilà.
Oh. Ouais, non, ça, c'est de la vanne à Barbier.
Oh. Et Valérie qui a rien compris. C'est dans Liliane et Walt Disney.
Non, mais moi, là, quand il y a des questions comme ça, le temps que je respire pour réfléchir, parce qu'il faut une respiration pour réfléchir, l'autre, il a déjà répondu.
L'autre, il s'appelle Christophe Barbier.
Bah oui,
c'est une vraie grosse tête.
Bah déjà qu'elle doit réfléchir à pas oublier de respirer.
Si elle doit se souvenir.
Non.
Si elle doit se souvenir des noms aussi, alors...
Ben si, je m'en souviens, mais ça fait partie de...
J'ai peut-être une question plus facile pour vous, Valérie Mérès, et pour Monsieur Mouton, qui habite Ris-Orangis. Et la question concerne Boris Jardel, Marc Elliard et Ludwig Dahlberg. Qui était où hier soir?
Au Cameroun.
Ah non, 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 non.
Qui était où hier soir?
Ils étaient sur scène,
répétez les noms.
Alors, je répète les noms.
Ah oui, d'accord.
Boris Jardel, Marc Elliard et Ludwig Dahlberg. Ils étaient où hier soir?
Bah, bon, ils n'étaient pas à l'anniversaire de Fabienne Thibault, parce que j'y étais, je les ai pas vus.
Attendez, ça m'intéresse. Alors, vous faites les anniversaires de Fabienne Thibault?
Ah ben moi, dès que je suis invité, j'y vais, vous savez.
Et vous étiez les uns contre les autres?
Oui, j'étais avec Jean-Claude J3. Qu'est-ce qu'il est bien, dis donc.
Ah ouais.
Ah oui. Hein.
Mieux que P6 en mots croisés.
Oui, mais moi c'est 11B. 11B, c'est mon préféré.
11A.
Ah non, 11B, tu tombes.
Ah oui, t'es pas là. 11B.
Et alors, comment c'était l'anniversaire de Fabienne Thibault? Qu'est-ce qu'elle chante, Fabienne Thibault?
On vit les uns contre les autres. Et puis elle chante aussi, ma mère chantait toujours, la, 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 une chanson d'amour que je te chante à mon tour. Et puis elle chante Starmania surtout.
Non, mais il n'y a pas une chanson qui se passait dans l'ascenseur avec Richard Cosciante.
Richard Cosciante qui demande d'appuyer sur le bouton 18. Il n'y arrive pas.
Une question de feeling.
Une question de feeling.
Ouais, mais je la connais pas, celle-là.
Ah, c'est bien une question de feeling. Juste une question.
Allez, juste une question.
Question de feeling. Question de feeling. Question de feeling. Question de feeling.
Ah, c'est bien.
Ah, ben, toi, on se demande pas pourquoi tu chantes pas, hein, ça.
Bon, ça m'éloigne, en
Est-ce
tout cas.
Est-ce que c'était sportif comme événement?
Non, c'était pas sportif.
C'est culturel?
Culturel.
C'est l'opéra.
Alors, c'était pas sportif, mais ça se passait quand même à l'Accor Arena, pour tout vous dire.
Donc, c'était un concert?
Un concert important, quand
c'est
même.
C'est les vrais noms des
Polnareff.
Pardon?
C'était un
d'Indochine à l'Accor Arena hier.
Et alors
eh ben, c'est les trois chanteurs
d'Indochine. Eh ben, c'est les trois chanteurs d'Indochine.
C'est leur vrai nom. Les moins connus.
Pas les chanteurs,
les membres du groupe.
Les membres et les musiciens du groupe Indochine. Eh oui. Le chanteur, c'est Nicolas Sirkis.
Voilà.
Lui, il est évidemment très, très connu, Nicolas Sirkis. Mais il y a Boris Jardel, Marc Elliard, Ludwig Dalberg, qui ont remplacé au fur et à mesure des années, parce qu'en fait, c'est ça, Indochine. C'est Nicolas Sirkis, il y a eu son frère, qui, hélas, n'est plus de ce monde. Il y a eu Dominique Nicolas, qui était aussi dans le groupe à l'origine, mais tout ça s'est transformé au fur et à mesure. Le seul qui résiste, c'est Nicolas Sirkis.
Il se sera appelé Nicolas Sirkis et son orchestre.
C'était plus simple.
Ça aurait été plus logique.
Mais c'était pris déjà. Non, par aimable.
Oui, voilà.
Ça pouvait être le grand Magic Sirkis.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Le grand Magic Sirkis.
Il est toujours drôle, Barbière.
Oui. C'est un peu tiré par les pélos. Hein.
Moi, ma chanson préférée d'Indochine, c'est J'ai demandé à la Lune.
Oui. Ah oui, moi aussi, j'ai demandé souvent à la Lune.
J'ai demandé à la Lune, et le soleil ne le sait pas.
Qu'il y avait une ambiance pendant cette chanson. Et alors l'aventurier, je vous dis pas l'aventurier. Fréquence sexuelle de Jean-Philippe Janssen. Trois nuits par semaine. Indochine a triomphé encore à l'Accor Arena hier soir. C'est une bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff. RTL.
RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Non, en fait, le Rennes, c'est un supporter de foot qui eut un joueur qui rate un but et quand le joueur lui fait « Bah t'as qu'à venir sur le terrain si t'es si fort !» Il répond « Bah non, chacun sa place, toi tu joues et moi je dis que t'es nul. »
L'œil de Philippe Cavrivière, c'est tous les matins à 7h55 et à 8h25 sur RTL.
Les grosses têtes sur RTL. La rediff.
Une question à la portée de tout le monde, vous qui aimez la mode, vous qui aimez être in. C'est pour,
oui, ça, j'en ai
pour l'été, il y a quand même des choses à faire et des choses à ne pas faire dans tous les magazines, pas seulement féminins d'ailleurs, puisque là c'est dans le magazine M, le supplément du Monde. Une page signée Marc Bauger, hein, qui vous dit toujours quel tweed il faut choisir, quelles chaussures en daim vous devez mettre sur le pied gauche et en cuir sur le pied droit, et d'autres conneries de ce genre. Mais là pour le coup, c'est intéressant. Parce qu'il y a une chose à ne pas faire, c'est très ringard si vous le faites pendant l'été, mais quoi donc ?
S'exposer sans mettre de crème.
C'est pas une rubrique médicale, voyez-vous. C'est une rubrique mode.
Avoir les chaussures assorties au sac.
Ce n'est pas lié aux chaussures.
En parlant de mode, je voudrais dire que Valérie, elle a une très belle robe avec un motif. C'est quoi ? C'est le léopard ?
C'est léopard.
Ouais. Et moi, j'ai la culotte comme ça. C'est drôle, hein ?
Mais le pire, c'est qu'elle la montre.
Mais oui.
Bah, c'est la vérité, je le
trouve. Et moi, j'ai une autre partie du léopard.
Celle-là, j'aurais pu la faire aussi.
Tu me la prêteras.
Mais avec plaisir.
Christophe Barbier n'en revient pas.
Je n'en reviens pas et je me demande combien on peut découper de culottes de Constance dans une robe de Valérie.
Non, mais...
Bon, alors ça n'a rien à voir avec le léopard, le string, la culotte.
Est-ce que ça a à voir le fantasme d'un léopard, c'est d'avoir un slip en peau de pute.
C'est vrai.
Est-ce que ça...
Accord le guépard.
Est-ce que ça concerne le chapeau?
Non, le chapeau, non.
Les lunettes.
Alors, les lunettes de soleil, oui.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Les lunettes miroir.
Connectées, comme celle de Baffy.
Il ne faut pas les mettre sur la tête en guise de diadème.
C'est-à-dire?
Il y en a qui relèvent leurs lunettes, ils les mettent comme ça, sur le front ou sur...
Sur le front. Il ne faut pas mettre vos lunettes de soleil sur le front. Ringard. Bonne réponse.
Eh oui, c'est moi qui l'en fais tendance.
Eh oui, ça c'est toute une page là-dessus. Porter ses lunettes de soleil sur la tête.
Oh non, oui.
Non, non. Certains inconscients se contentent de glisser leurs lunettes dans la poche poitrine de leur chemise ou de leur veste, écrit Marc Bauger, les exposant alors ces lunettes alors à une chute au moindre mouvement vers le bas. Donc ça.
Eh oui, si oui. Tu dois brosser par exemple la cuvette des WC, tu retrouves tes lunettes dans le fond de la cuvette. Donc ça, ça m'est arrivé avec un portable.
Faut pas le faire non plus. Ça. D'autres préfèrent déformer leur t-shirt ou leur chemisier
en
calant l'objet dans leur moi je fais ça souvent.
Ah, vous le mettez là.
Dans leur encolure. Ouais. Voyez.
Bah oui, mais moi je la mets dans mon encolure, mais elle est beaucoup plus basse que la vôtre.
Et puis surtout, tu les retrouves
c'est entre mes deux seins.
Mais vous avez en collant.
C'est
en
pas la première monture que vous avez entre les deux seins.
Je le revendique.
D'autres alors font tenir effectivement leur monture au-dessus de leurs yeux, quelque part entre le haut du front et le milieu du crâne. Cette option est ringarde. Ah oui. Non seulement la paire de lunettes va se muer en effet vulgaire serre-tête.
Oui, c'est un diadème.
Je vous lis Marc Bauger dans Le Monde, quand même.
Le Monde a bien changé, Laurent.
Sur un crâne chevelu, alors vos lunettes vont retenir les cheveux vers l'arrière.
Mais évidemment, mais déjà un crâne chevelu, c'est dépassé.
Au point, évidemment, de révéler, si vous mettez les cheveux comme ça sous vos lunettes, au point de révéler des racines douteuses.
Ah, oui, souvent, les racines sont douteuses.
Eh oui. Sur un crâne chauve, monsieur Gueluc, puisque vous en parlez, l'effet est plus ingrat encore.
L'arc. Mais et attendez, et les porter normalement sur le nez, on peut.
Non mais, parce que sur un crâne chauve, qu'est-ce qu'il dit Marc Bauger? Il dit, si vous mettez vos lunettes de soleil sur un crâne chauve, l'exposition au soleil va se prolonger au point d'engendrer une marque de bronzage.
Absolument.
Un carnage sur le crâne.
Ah ben, si c'est des verres correcteurs, ça peut faire deux brûlures, évidemment.
Quelle est donc la solution, puisqu'il faut éviter tout ça? Où mettre ses lunettes quand on veut pas les avoir sur le nez?
Dans l'étui, dans le sac.
Dans la poche intérieure de votre veste.
Eh oui,
Il faut avoir une veste.
Il faut avoir une veste.
Bah oui.
Il est con, vous pouvez aussi l'étendre à votre majordome. Oui.
C'est ce que fait Marc Bauger. Vous les mettez où vos lunettes de soleil quand vous les avez pas sur le nez, monsieur?
Ah, moi, comme toutes les chefs de cabine, j'ai une petite chaînette comme ça.
Ah, alors. Alors là, j'avais oublié cette solution, mais il y est aussi.
Ah, voilà.
Les lunettes
alors,
de soleil.
Attendez, je vais vous dire.
Tu prends 15 ans dans la gueule tout de suite, ouais.
Alors, c'est exactement ce qui est écrit. Voilà, comme. Alors, c'est même écrit d'autres encore, comme Jean-Phi Janssen. Aiment les porter en sautoir autour de leur cou.
Un sautoir, c'est
sécurisant
ça,
à la fois leur père et leur entrée dans le troisième âge. Ah,
ouais. Moi, je les enlève jamais. Ça fait un côté Fanny Ardant, tu sais, comme ça, mystérieuse.
Mais vous, ce ne sont pas de vraies lunettes de soleil, madame Ziz du Panier.
C'est des lunettes de vue teintées.
Ah, c'est ça.
Oui.
Mais pourquoi
parce que comme je me maquille pas pour venir à la radio, je veux pas me montrer sans maquillage.
Mais t'es toujours très simple, j'ai remarqué.
Mm-hmm. Je ne me maquille pas, monsieur.
Eh ben, qu'est-ce que ça
serait si je me maquillais ?
Ah, tu peux compter sur les copines ici.
Ah oui, parce que quand même, vous avez une sacrée couche. Ah,
mais
oui.
Vous rêvez ou quoi ? Je me suis juste lavé le visage avec un peu d'eau et du savon de Marseille.
Bah, la prochaine fois, prenez le savon Le Chat, vous. Vous redeviendrez chauve. Ah, dites donc, j'ai une question intéressante là.
Pour une fois.
J'oublie les lunettes pour monsieur Carlson qui habite Moyeuvre Grande en Moselle. Quel est le pompier le plus célèbre du monde?
Red Adair.
Ah, ça, Jean-Phil les connaît tous.
Red Adair. C'est Red Adair.
C'est Red Adair. Bonne réponse.
C'est lui qui éteignait des puits de pétrole en feu en les bombardant.
Exactement. Et pourquoi
parle? Parce qu'il aurait 110 ans aujourd'hui, Red Adair.
Il est né le 18 juin 1915.
Red Adair de Doc Poufin.
Il s'appelait, c'était son surnom parce qu'il était rouquin. Red, c'est pour rouge, vous voyez. Il s'appelait Paul Adair, en quelque sorte.
Ah, Red pour rouge.
Oui, absolument.
Pas Red. Non, pour
ça,
Red.
Sa sœur, en revanche, Drôme était un sacré chameau, alors.
Et celui-là, tu l'as pas fait, hein, Jean-Phil?
Dromadaire.
Et puis, il y avait le frère aussi, Hebdo.
Hebdôme.
Mais, pardon Laurent, mais vous dites il aurait 125 ans, donc il est mort.
Non, il aurait 110 ans.
110 ans,
il
oui.
Il est mort en 2004.
Oui, mais quel intérêt de dire il aurait eu, parce qu'alors Victor Hugo aurait 243 ans.
Mais c'est juste pour dire que c'était l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, et qu'on ne connaît pas d'autres pompiers célèbres.
Bah, Canadair.
Le sapeur Camembert.
Ah oui, c'est vrai, le sapeur Camembert, c'était un pompier, ça. Il paraît qu'il y a Sam le pompier aussi qui est
bah
très...
oui, plus connu, lui.
Ah oui, vous connaissez.
Bah oui, Sam le pompier, c'est un dessin animé qu'on regarde avec des enfants. Et donc, c'est.
Sinon, c'est bizarre.
C'est eux les plus. C'est eux qui ont raison, c'est lui le plus célèbre. Lui, au moins, il est toujours vivant, Sam le pompier.
Sam le pompier, c'est les dessins animés que des curés regardent avec des enfants. Pour les amener sur d'autres sujets ensuite.
Pour éteindre le feu au clocher.
John Wayne a joué Red Adair au cinéma parce que c'est un pompier tellement célèbre qu'il y a des films qui se sont inspirés évidemment de la vie de Red Adair. Comment vous connaissez Red Adair, vous?
Oh ben, quand il y a eu la guerre en Irak en 90-91 pour libérer le Koweït, il y a des centaines de puits qui avaient été bombardés, donc qui étaient incendiés, et c'est sa société qui a été appelée à la rescousse. Et il faisait en effet exploser le cœur du puits de pétrole en feu, et l'explosion dévorait tout l'oxygène et l'incendie stoppait.
Qu'est-ce que fait Constance, là?
Elle a des tocs.
Elle a le feu aussi, mais ailleurs.
Elle a des tocs.
Elle a le feu au léopard.
Elle est venue ramasser une feuille devant chez vous en profitant pour remontrer sa culotte léopard au public, qui a l'air ravi.
Elle en est fière de sa culotte.
Il y a un monsieur au jeune œil
qui vient de s'évanouir.
Il enlève les lunettes, du coup. Pas sur le front, hein, pas sur le front.
Ça fait pleurer ses yeux.
Ah, elle a bien fait de venir aujourd'hui. Hein. C'est Yanis qui va regretter.
Elle a le léopard en folie. Hein.
Je sens une filiation tellement forte entre toi et moi.
Mais qu'est-ce qui vous prend, Constance?
Non, mais c'est la feuille, elle est tombée depuis tout à l'heure, ça m'agace.
Ah oui, oui. Vous avez...
Oui, ça, c'est agaçant.
Elle a des tocs. Elle a des tocs, la pauvre petite.
Oh, zut, mon bic est tombé.
Valérie, vas-y.
Ah non, j'y vais plus.
Merci, Constance. Bravo.
Une question maintenant, si vous le voulez bien, pour Franck Prost, qui habite Rennes, en Ille-et-Vilaine. Je vais vous parler d'une femme qui s'est appelée Françoise Durand pendant la guerre. Avant-guerre, elle s'appelait tout simplement Nicole Dreyfus, puis elle a changé, on comprend pourquoi, son nom pendant la guerre. Nicole Dreyfus est devenue Françoise Durand, et c'est grâce à Jacques Prévert qu'elle a trouvé son pseudonyme. Mais de qui s'agit-il ?
Anouk Aimée.
C'est Anouk Aimée, bonne réponse.
Mais elle a pris comme prénom le prénom de son héroïne dans son premier film.
Exactement, La Maison sous la Mer. Elle avait 14 ans, Anouk Aimée, quand elle débute au cinéma, mais elle ne s'appelait pas encore Anouk Aimée. Mais comme son personnage s'appelait Anouk, elle a choisi de prendre ce prénom, et c'est Jacques Prévert qui lui a dit, comme nom de famille, tu n'as qu'à prendre Aimée. Et ça, c'est une belle histoire. Hein. Quand même, avoir son pseudo trouvé par Jacques Prévert, Anouk Aimée, qui elle aussi est dans l'éphéméride.
Tout à fait.
Je sens que vous avez bien révisé.
Oui, puis j'ai eu la chance de la connaître un petit peu. J'ai d'abord fait connaissance avec elle par un de ses premiers partenaires, Serge Reggiani, avec qui j'avais fait un livre. Ils étaient dans les Amants de Vérone, puis ils ont tourné, je crois, dans les portes du paradis de Prévert. Les portes, non, peut-être pas du paradis, les portes de minuit, ou je ne sais
pas. Elle est morte il y a un an pile, le 18 juin 2024. Il y a un an qu'Anouk Aimée nous a quittés. On a reparlé d'elle il y a peu au moment de la disparition de Nicole Croisy, parce qu'évidemment, la chanson d'un homme et une femme, c'est la chanson d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans le film de Lelouch.
Et alors mon stratagème n'a pas marché parce que moi j'avais essayé de faire croire aux gens qu'on chantait Shabadabada, évidemment.
Et oui.
Une pub détournée. Et non, c'est Badabadaba.
Et c'est Pierre Barou qui chante avec Nicole Croisy. Pierre Barou qui a été le mari d'Anouk Aimée. Elle a eu quatre maris Anouk Aimée, parmi lesquels Pierre Barou qui chante là avec Nicole Croisy. Mais elle a eu une collection d'hommes.
Eli Chouraki, je crois.
Eli Chouraki, Omar Sharif, Warren Beatty. Donc quand même une femme qui a su séduire de nombreux hommes. C'est en tout cas encore une excellente réponse de Christophe Barbier.
Les grosses têtes de nuit.
3h-4h30 sur RTL.
Le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle « À la machine » et il est consacré à la vie d'Elisabeth de Miribel. Mais ma question est toute bête, avant qu'on parle avec David Brunat, qui était Elisabeth de Miribel ?
La secrétaire de Gaulle qui a tapé à la machine l'appel du 18 juin.
Oh, oh là là.
Mais je terre maintenant.
C'est vrai qu'il il en devient décevant.
Moi j'ai toutes les réponses.
Elle a bouffé ton écharpe.
Voilà le caractère de ce corps.
Et je vous recommande d'aller voir Indomptable, le film qui se passe au Cameroun, qui est un très bon policier.
Alors, je vais vous accorder la bonne réponse, tout en quand même rectifiant...
Oui, c'est nuancé, attention.
En rectifiant quelque peu, et d'ailleurs, je pense que David Brunat sera d'accord avec moi, elle n'était pas la secrétaire du général de Gaulle.
Il l'a empruntée.
Il a, effectivement, il lui a demandé de jouer, en quelque sorte, la secrétaire, juste le temps de l'appel du 18 juin. Voilà pourquoi, évidemment, j'ai choisi qu'on parle de ce livre aujourd'hui. Bonjour, David Brunat.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
J'ai raison de rectifier auprès de Christophe Barbier.
De préciser,
et voilà,
de détailler.
De préciser, de détailler, parce qu'elle n'était pas vraiment secrétaire, mais elle savait, d'ailleurs pas très bien, taper à la machine, puisque vous le racontez dans votre livre, elle tapait d'un doigt seulement à la machine.
Oui, mais lequel?
Le doigt de Dieu, dit David Brunet dans son livre.
Le doigt de Dieu, et elle a répondu à l'appel du général, mais aussi à l'appel de Dieu quelques années plus tard, puisqu'elle est devenue religieuse, mais je ne veux pas anticiper. Clairement, elle n'était pas secrétaire, ce n'était pas son métier, elle ne savait pas taper à la machine, très mal, mais l'aide de camp du général, qui s'appelait Geoffroy de Courcelles, l'a sollicité le 18 juin pour qu'elle tape un texte d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui s'est révélé être naturellement le général de Gaulle. Elle a tapé pendant la journée ce texte qui a été prononcé le soir même sur les ondes de la BBC.
Sans qu'elle l'entende. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'au moins, elle l'avait entendu, cet appel du 18 juin.
Elle est rentrée se coucher. Qu'elle raconte dans ses mémoires, elle était sans doute assez fatiguée par une journée de travail très inhabituelle pour elle. Elle est rentrée se coucher et elle ne l'a pas entendu. Il a été diffusé dans la soirée. Ceci étant, elle le connaissait par cœur.
Pourquoi elle le connaissait par cœur ? Parce qu'elle l'avait...
Parce qu'elle l'avait tapé, et qu'elle avait passé la journée à le lire, le relire avec Geoffroy de Courcelles, le mettre à sa main, et donc elle l'a lu des dizaines de fois jusqu'à l'achèvement de la version dactylographiée.
Vous parlez de monsieur Geoffroy de Courcelles, qui effectivement est celui qui demande à madame de Miribel de taper le texte manuscrit de Gaulle, pour qu'il ait un texte donc dactylographié, on l'a bien compris. Mais dans le livre, vous précisez bien, c'est monsieur Chaudron de Courcelles. Est-ce que c'est de la même famille que madame Bernadette Chirac, qui est née Chaudron de Courcelles?
Oui, tout à fait. C'est un homme qui a joué un rôle très important, non seulement pendant la guerre à Londres, dans la France libre, mais aussi plus tard, il a été ambassadeur à Londres pendant une dizaine d'années.
On revient à Elisabeth de Miribel, puisque c'est elle l'objet de votre livre. Enfin, l'objet de votre livre, d'ailleurs, c'est la machine, puisque tout est parti de là. Elle est où, d'ailleurs, cette machine à écrire qui vous a donné l'idée de ce livre sur Elisabeth de Miribel?
Elle se trouve à la Fondation Charles de Gaulle, rue de Solferino, dans le 7e à Paris, sous une vitrine, dans le bureau du général qui l'occupait avant de devenir président de la Ve République, à l'époque du RPF, du Rassemblement pour la France, un parti qu'il avait créé, et elle est pieusement conservée là-bas, et c'est d'ailleurs Elisabeth de Miribel elle-même qui l'a donnée à la Fondation.
Vous rappelez aussi qu'il y a eu trois Elisabeth dans la vie du général de Gaulle, trois Elisabeth importantes, même si au fond, l'Elisabeth à qui vous consacrez ce livre, Elisabeth de Miribel, n'a pas été non plus très très célèbre grâce au général, parce que, ou plutôt j'ai même envie de dire, heureusement que vous êtes là pour nous rappeler sa mémoire, parce que le général, lui, dans ses mémoires de guerre, ne la cite même pas.
Non.
Elle n'a été qu'un doigt pour lui.
C'est ça, en quelque sorte.
Elle a toujours refusé de lui rouler l'appel du 18 juin.
Non mais c'est fou ça quand même, parce qu'au fond, ça veut dire quoi? Que le général ne la considérait pas? Que le général
l'avait
oublié?
Il avait beaucoup d'estime, de reconnaissance et d'admiration même pour elle. En revanche, c'est vrai que dans ses mémoires, quand on lit ses mémoires, il n'y a pas de femmes quasiment. Les femmes occupent une place très très réduite en dehors de son cercle intime. Et c'est vrai qu'il ne la mentionne pas une seule fois, et j'ai trouvé que c'était dommage, c'était injuste, c'était cruel c'est aussi une certaine époque, hein, et il fallait réparer cette omission, si je puis dire, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité écrire ce livre, parce que j'ai voulu savoir ce qu'il en racontait dans ses mémoires, et ce qu'il en racontait, c'est rien. Donc il fallait en dire quelque chose.
Et donc l'autre Elisabeth, plus importante pour lui, forcément, et vous dites, il est obligé d'y penser quand, effectivement, M. de Courcelles lui présente cette Elisabeth, qu'il ne connaît pas encore à ce moment-là, quand il la lui présente.
Il ne l'a jamais rencontrée.
Voilà, quand il la lui présente, 17, en lui disant, c'est elle qui va taper à la machine votre appel du 18 juin, forcément, il pense à son Elisabeth, à lui, qui est sa fille, enfin une de ses filles.
À sa fille aînée, il a eu deux filles, Elisabeth et Anne. Elle va jouer un rôle très important, à la fois sur le plan familial, mais aussi sur le plan littéraire, puisque c'est elle qui tapera les mémoires de Gaulle. Il fait un manuscrit et ensuite elle le met au propre. Alors là, c'est plus tard, hein, c'est dans les années 50.
Il fait taper que par des Elisabeth.
Mais rassurez-nous, elle tape à plusieurs doigts, sa fille.
Oui, je pense.
Mais il n'avait pas une fille qui était handicapée ?
Si, c'est, ça, c'est Anne.
Anne.
Ah,
oui. Anne de Gaulle.
Anne de Gaulle, c'est l'autre fille. Et puis alors, la troisième, Elisabeth, c'est évidemment Elisabeth d'Angleterre que vous mentionnez.
Oui, qui a tapé aussi des lettres pour le général de Gaulle aussi.
C'est très connu. Non.
Non.
Non. Bah, non. Qui n'a pas tapé de lettres pour quiconque.
Non. Mauvaise réponse de Christophe Barbier.
Qui à l'époque est la fille du roi d'Angleterre, qui va apporter un soutien très important à De Gaulle et à la France libre, qui sera absolument très capital dans le cours de la guerre, et le général lui en sera très reconnaissant.
Mais Mirabel, puisque c'est ainsi qu'on la surnomme parfois, Elisabeth de Mirabel, je me permets de le faire puisque vous le rappelez dans votre ouvrage, Mirabel, est-ce qu'elle a revu une fois le général ?
Elle l'a revu après-guerre, elle s'est même rendue à Colombelles-les-Deux-Églises à la fin des années 40. Ensuite, elle rentre au Carmel, donc là, elle ne le voit plus, mais ils correspondent, il y a une relation épistolaire entre eux, et elle le revoit une fois ou deux dans les années 60, elle va devenir diplomate une fois sortie du Carmel, et elle reste en contact, pas régulier avec lui, mais en tout cas, il y a un lien qui perdure.
Ce que j'ignorais, que j'ai appris dans votre livre, moi qui pourtant connais bien la ville d'Honfleur, c'est qu'à Honfleur, il y a dans un musée un buste d'Elisabeth de Mirabel.
Oui, tout à fait, que j'ai découvert... tout à fait par hasard, au cours d'une visite de ce musée, le musée Boudin, Eugène Boudin, qui est très intéressant, et se trouve une sculpture, une statue, un buste d'Elisabeth, qui a été réalisé dans les années...
Valérie Mérès fait la moupe, elle me dit, elle me souffle, Valérie, j'aimerais pas avoir ma statue dans un musée Boudin.
Je l'attendais. Il est dans mes pensées.
mais c'est le cas d'Elisabeth de Mirabel.
Oui. Qui, au demeurant, était une femme pleine de grâce, de
très
charme.
Très jolie. Il y a des photos. Vous publiez des photos au milieu du livre. Et c'est vrai que cette femme, qui, au fond, aurait pu rester inconnue, n'a jamais eu de livre qui lui avait été consacré. Vous êtes le premier à le faire, David Brunat.
C'est le premier, alors qu'elle a eu un rôle important, discret, mais absolument capital. Et 20 ans après sa mort, puisqu'elle est morte en 2005...
Il n'y a pas longtemps, en fait. Pas si longtemps.
Elle a sorti le premier livre sur elle, le mien. Et je crois savoir qu'il y en a peut-être d'autres en préparation. Donc, sa mémoire va être entretenue. Et ça, c'est une super nouvelle. Et d'ailleurs, je vous remercie, Laurent, et toute l'équipe des Grosses Têtes, de me permettre de parler d'elle, parce que je pense que c'est important.
On vous en prie.
C'est un modèle.
En ce 18 juin, ça me paraissait logique de le faire. Aujourd'hui, c'est le jour de l'appel du 18 juin, ce jour où effectivement le général va lire à lui, il y a quelques années déjà, quelques décennies évidemment, ce fameux appel tapé à la machine par Madame Elisabeth de Mirabel. Ça s'appelle « À la machine ». C'est aux éditions La Thébaïde, dans la collection Histoire. C'est signé David Brunat et c'était notre livre du jour.
Les Grosses Têtes sur RTL, la rediff.
Quelques questions littéraires pour que mes grosses têtes brillent. On ne peut pas que parler des lunettes de soleil. Hein. Et là, c'est une question qui va concerner évidemment notre camarade Valérie Mérès. Jean Le Bleu est un roman de Jean Giono, en partie autobiographique d'ailleurs. Mais ce roman, Jean Le Bleu, a été adapté au cinéma. Mais sous quel titre ? Merci pour ce soupir.
Alors Valérie, nous t'écoutons.
Prends ta respiration.
Alors, Monsieur Barbier, on fait moins le malin, là. Hein.
C'est un film dans lequel elle a joué.
Alors, Jean Giono.
Oui, Jean Le Bleu.
Donc, il y a une partie de...
Il y avait c'était Carmé qui jouait le rôle.
Non ah non, c'était pas Carmé. Jean Le Bleu est un roman de Jean Giono, paru en 1932. Et ce roman a inspiré quelqu'un d'autre pour un film très célèbre, un film Karim, qui lui-même ensuite, là je vais vous aider un peu, a donné une pièce de théâtre célèbre. Mais quelles pièces de théâtre et quels films ont été inspirés par le roman de Jean Giono, Jean le Bleu?
La femme du boulanger.
La femme du boulanger. Bonne réponse de Philippe Gueluc.
Bravo Valérie.
Mais elle a joué, là, mais ça je le savais pas.
Vous le saviez pas.
C'est parce qu'on croit tous que c'est Pagnol qui a écrit ça. Mais or, oui. Il s'est inspiré dans un roman qui s'appelait, je crois, Jean le Bleu.
Et
de Giono, et le film est de Pagnol.
Pagnol, voilà. Il a fait beau, il s'est beaucoup inspiré de Giono parce qu'ils étaient de la même région.
Et ben voilà.
Ah oui, maintenant tu sais.
Ouais. Ben, c'est sûr. Hein.
Et vous avez fait la femme du boulanger.
Ben oui, Pomponnette. Oui, à l'époque où je portais des culottes léopard.
La Pomponnette.
Et d'ailleurs, votre amant, c'était un boxeur, hein, c'est ça dans la pièce.
Hein. Stéphane Ferrara.
Et c'était Michel Galabru qui faisait le boulanger.
Oh. Oh oui, c'était Michel.
Ah oui, c'était comment la célèbre scène, la Pomponnette.
La Pomponnette.
Monsieur Barbier doit la connaître.
Oui, Pomponnette, alors, c'est à cette heure-ci que tu rentres, alors tu es parti avec un chat sauvage.
Et qu'est-ce que vous disiez, là?
Moi, je disais pas grand-chose. Non.
Ou une baguette.
Elle disait, pétris-moi les brioches.
Mais non, ce qui se passe, je l'explique pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas ce chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre, la femme du boulanger.
On est d'accord.
Le boulanger, Michel Galabru, dans la version théâtrale, hein, parce que au cinéma, qui jouait aussi?
Rému.
Alors, on va prendre la version Valérie Mérès et Galabru, parce que ce sera plus récent quand même, si j'ose dire.
C'était Rému et Ginette Leclerc au cinéma, et après c'était Galabru et moi théâtre.
Et alors donc il est fait cocu, le Galabru. Il est fait cocu par la pute qui s'en va
avec un berger.
Et puis alors il revient toute penaude, et au lieu de s'adresser à sa femme qui revient toute penaude, comme il y a la chatte Pomponnette qui revient au même moment, c'est ça la scène.
Exactement,
bien sûr. Comme il y a la chatte qui revient au même moment, on fait ça parfois, ça nous arrive de le faire à la maison aussi, hein.
Bah oui.
Non, mais il fait.
On s'adresse à quelqu'un pour que ce soit l'autre qui entende ce qu'on dit. Et ça, c'est une scène magique parce que il est là, le Galabru, il parle à la chatte. Oh, Pomponnette. Alors, tu reviens, Pomponnette. Tu étais parti, Pomponnette. Et il s'adresse à la pute qui est là.
Ouais. Et c'est formidable, Laurent, de nous le faire avec l'accent du Havre. C'est formidable.
C'est affreux, ces Parisiens qui font l'accent du Sud. Hein. C'est terrible.
C'est vrai que j'aurais dû vous demander à vous. Mais faut dire que vous n'avez pas le Pomponnette, vous.
Et il lui dit, ce pauvre Pompon, il était tellement malheureux.
Ouais.
Et elle pleure, elle lui demande pardon.
Et il paraît qu'il y avait une scène où vous étiez derrière un drap quasiment nu.
En fait, au début, on me voyait me mettre au lit. Alors, c'était en ombre chinoise. Et je me coucherais.
Mais c'est dans une boulangerie.
Oui,
c'est dans une boulangerie. Donc, on ne voit pas tes miches dans la.
Eh ben non, le fournil.
Aujourd'hui, pour que ce soit une ombre chinoise, ça se passerait dans un bureau de tabac.
Oh là là.
Alors, il y avait le fournil en bas et en haut, il y avait la chambre.
Il y avait le fournil en bas.
C'était chaud en bas.
Ben oui.
On voyait la baguette.
Il te mettait la baguette.
On voyait le boulanger qui faisait son pain. Mais en haut, il y avait la chambre. Et donc, il y avait un espèce de voile, ce qui fait quand je me mettais toute nue en ombre chinoise.
Enfin, que tu croyais.
Parce que
moi, j'étais dans la salle. Et c'était pas du tout de l'ombre chinoise.
Et Galabru, élégamment, il se retournait vers le public pour ne pas me voir puisque j'étais derrière, et il me le faisait remarquer qu'il était élégant et qu'il regardait pas, et je lui avais dit, le soir de la dernière, t'auras qu'à te retourner.
Et il l'a fait.
Il l'a même pas fait parce qu'il était quand même très,
ouais, tu l'as
très élégant. Mais c'était pas du tout un vicieux, parce que moi, en fait, dans ma loge, je mettais, bon, j'avais des dessous à l'époque très élégants, hein, très, très,
je me regarde.
Je mettais mon peignoir par-dessus ma culotte et mon soutien-gorge, et puis j'allais frapper à la porte de Galabru, et il ouvrait la porte, et là je faisais comme ça avec mon peignoir. J'ouvrais mon peignoir et je le refermais, et je courais dans les couloirs, et il me faisait salope. Salope. Je pense qu'il aurait pu me faire un MeToo.
Ah, c'était une belle époque, hein. Encore une question littéraire et cinématographique en même temps, puisque je vais vous demander quel célèbre romancier a été le scénariste des Don Camillo joués par Fernandel.
C'est celui qui a écrit aussi Ravage, c'est René Barjavel.
Oh là 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 là, oh là, 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 là. Excellente réponse.
Il y a un moment, je vais vous avouer un truc, comme on sait que la famille de Christophe est à l'écoute, on lui laisse un peu de temps pour répondre.
Oui. Non, mais je vous donne le choix. Évidemment. Soit je réponds, soit je fais des blagues. Vous préférez quoi?
Réponds.
Laisse-nous au moins ça.
On va voir si vous faites le malin sur la question suivante, monsieur Barbier. Pour Clara Keller, qui habite Brioude, en Haute-Loire, pour quelle raison connaît-on normalement la marquise du Grand Air?
Oh ben c'est une opérette.
Bécassine.
C'est une opérette.
Pardon.
Bécassine.
C'est-à-dire?
Ben oui, c'est elle qui a. Madame de Grand-Terre, c'est celle qui.
C'est la patronne de Bécassine. Oui,
c'est voilà. La patronne de Bécassine. Ah. Bonne réponse.
Merci. Et paf. Merci.
Bravo Ziz.
Alors là, il m'a aidé un peu, mais je savais que c'était.
Non, ouais. tu m'as aidé. Bah,
Philippe Gueluc et Ziz du panier.
Oh, ça colle nous deux.
Si on m'avait dit un jour.
Un chat et une chatte qui se retrouvent.
Dany, si tu m'écoutes, ne crois rien de tout cela.
La marquise de Grand-Terre, c'est bien la patronne. Oui, Dany.